Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors aujourd'hui, on va se demander si un nouvel Internet est en train de se dessiner au nom de notre souveraineté numérique, mais aussi de nos droits et libertés fondamentales. En effet, il y a 30 ans émergeait Internet et aujourd'hui, une poignée d'entreprises détient son quasi monopole dans les domaines critiques des services et des infrastructures. Alors, au nom de notre sécurité, faut-il repenser la souveraineté de nos modèles européens à partir d'un Internet qui pourrait être quantique ? Face aux réseaux chinois et américains, est-il possible de faire émerger un champion européen en termes de plateforme ? Enfin, est-il possible de bâtir un réseau plus durable, plus résilient et davantage respectueux des droits et des libertés fondamentales, avec peut-être de nouvelles frontières géopolitiques ? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant avec nos invités. Le numérique, c'est politique, c'est dans le numérique pour tous et c'est tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Alors aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va essayer de comprendre quelles sont les directions géopolitiques vers lesquelles s'oriente l'Internet au nom de nos droits et libertés fondamentales. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général des réseaux internationaux du groupe Orange, Jean-Luc Villemain. Bonjour et merci beaucoup d'être parmi nous. Avant de commencer, j'aimerais vous demander en quoi consiste être directeur général des réseaux internationaux du groupe Orange, Jean-Luc.
Bonjour Vanessa. Eh bien, la fonction de directeur des réseaux internationaux d'Orange, c'est de mettre en œuvre l'ensemble des moyens qui vont permettre aux utilisateurs de l'Internet mondial d'accéder à leurs ressources ou aux ressources dont ils souhaitent avoir accès. Ça peut être des vidéos, ça peut être de l'information, ça peut être des plateformes de services pour les entreprises, où qu'elles se trouvent et dès lors qu'elles quittent le territoire national français.
Alors, on est confronté au quotidien à vos services, hein, quelque part, puisque vous contribuez à faire circuler tous les échanges de données que nous alimentons sur Internet. Concrètement, quels sont les circuits qui permettent de faire circuler l'information ?
Alors effectivement, Vanessa, vous êtes, comme la quasi-totalité de vos auditeurs, des utilisateurs de réseaux. Puisque dès lors que vous surfez, dès lors que vous êtes en roaming, dès lors que vous utilisez votre téléphone pour appeler l'étranger, eh bien votre trafic va passer sur mes réseaux internationaux, sur les réseaux internationaux du groupe Orange.
Et concrètement, quels sont-ils ? Sont des réseaux terrestres ou des sous-marins ?
Alors, ce sont des réseaux qui utilisent les trois dimensions. Dès lors qu'on est sur des territoires terrestres, eh bien ce sont des fibres optiques, de grandes fibres optiques internationales. La plus longue que nous avons dans notre réseau, eh bien elle relie Paris à Shanghai en passant par la Chine et par tous les pays d'Asie. Donc, vous voyez que c'est très loin. Dès lors, par contre, qu'il s'agit de connexions intercontinentales, eh bien, le vecteur privilégié, ce sont les câbles sous-marins. Vous savez que nous sommes un grand acteur dans le domaine des câbles sous-marins, puisque nous avons même nos navires pour poser et entretenir ces câbles sous-marins. Et puis, la troisième dimension, c'est le satellite, puisque nous opérons des circuits sur différents systèmes satellitaires, avec des technologies un peu anciennes, ce qu'on appelle des géostationnaires, et puis maintenant avec ce qu'on appelle les constellations, qui sont constituées de ces milliers de satellites en orbite, et qui permettent d'avoir une couverture globale sur l'ensemble du monde.
D'accord, et donc ce que nous envoyons, qu'est-ce qui définit le circuit que nos données vont
Alors,
emprunter ?
Aujourd'hui, c'est plutôt la géographie. Donc si on est sur Terre, c'est essentiellement des fibres optiques. Si par contre il faut passer un océan, c'est des câbles sous-marins. Le satellite est utilisé très marginalement et plutôt pour des objets, pour joindre des objets qui sont en mouvement. Donc des bateaux, des avions. Quand vous utilisez le Wi-Fi, par exemple, sur un avion, il y en a de plus en plus qui sont équipés, eh bien votre trafic, en fait, il sort de l'avion en utilisant un lien satellite qui peut être opéré par Orange.
C'est très très clair. Alors justement, récemment la Commission européenne, en la personne de Thierry Breton, a lancé un plan européen dont le nom s'appelle EuroQCI, QCI comme Quantum Communication Infrastructure, et qui vise à concevoir un nouveau réseau européen qui devrait être opérationnel en 2027. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce plan ?
Oui, alors d'abord je tiens à saluer l'initiative de la Commission européenne qui me paraît extrêmement importante et qui vise à positionner l'Europe et donc aussi la France au cœur des systèmes de transmission du futur. Alors on parle parfois d'Internet quantique, ce qui est peut-être un peu un abus de langage, mais en tout cas ce qu'on voit, c'est qu'il y a un nouveau domaine aujourd'hui qui se développe, c'est ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques. Alors les ordinateurs quantiques, ils sont différents des ordinateurs actuels, alors on ne va pas entrer dans les débats technique parce que c'est vraiment très très compliqué. Mais en tout cas, ces ordinateurs vont permettre de faire un certain nombre de choses que ne savent pas faire les ordinateurs actuels. Et ces ordinateurs, eh bien, ils auront besoin d'échanger des données, d'échanger des informations. Et pour ça, il va falloir des réseaux qui sont basés sur les propriétés de la mécanique quantique. Et c'est ces réseaux, aujourd'hui, que nous travaillons à mettre en œuvre avec le support de la Commission européenne.
Mais alors, ça veut dire qu'il y aurait un nouvel Internet, peut-être pour se prémunir de certains risques. Qu'est-ce qui est derrière ce plan ?
Alors, je pense que ces réseaux de transmission quantique vont coexister en parallèle des réseaux traditionnels actuels. Un peu comme les ordinateurs quantiques vont coexister avec les ordinateurs actuels. Mais ils permettront de faire des choses que ne permettent pas de faire les réseaux actuels. Et c'est très important parce que un des domaines où les ordinateurs quantiques vont amener une vraie révolution, c'est dans le système de la confidentialité, du cryptage et de l'authentification. Alors, je pense que la majorité de vos auditeurs n'en a peut-être pas conscience, mais la notion de confiance dans les réseaux actuels, elle est fondamentale. Savoir qui se connecte à quoi, être sûr que vous êtes bien sur la ressource que vous voulez obtenir, être sûr que l'information à laquelle vous souhaitez accéder n'a pas été modifiée, n'a pas été altérée en ligne, c'est tout à fait fondamental pour avoir un Internet de confiance. Or, les ordinateurs quantiques sont susceptibles de remettre en question tous les systèmes sur lesquels sont basés ces mécanismes de confidentialité, de respect de la vie privée, voilà. Donc tout ceci est susceptible d'être remis en cause par ces ordinateurs qui sont extrêmement puissants et qui vont pouvoir en quelque sorte casser tous les algorithmes qui protègent votre vie privée sur Internet. Et donc il va falloir mettre en place un réseau qui sera de nature, lui aussi, à garantir ces respects, à garantir ces mécanismes de cryptage dans ce nouvel environnement. Et c'est assez paradoxal de voir que l'Internet quantique permettra de remettre en question ce qui existe, mais la transmission quantique permettra de resécuriser ces nouvelles fonctionnalités sur l'Internet à moyen-long terme.
Donc ça veut dire qu'il va y avoir des clés quelque part qui vont chiffrer l'information quand elle arrive, quand elle part pour...
Oui, alors c'est un peu différent. Et encore une fois, sans entrer dans les détails techniques, on peut comparer un peu une transmission dans un réseau quantique à la transmission d'une bulle de savon. Vous voyez, une bulle de savon, c'est très fragile. Si quelqu'un touche à la bulle de savon, pouf, elle explose. Et donc, tout le monde sait que quelqu'un a essayé de toucher à cette information. Et bien, sur un réseau quantique, c'est un peu la même chose. On sait transmettre l'information de manière à ce que si quelqu'un essaye d'y accéder, pouf, tout le monde, instantanément, sait que cette information a été compromise.
J'aime bien beaucoup votre métaphore qui rend les choses vraiment très très claires et voilà. Visuelles.
Et donc, c'est en utilisant ces mécanismes qu'on va pouvoir demain, effectivement, transmettre des informations de façon extrêmement sécurisée, même en tenant compte de la puissance des ordinateurs quantiques qui, eux, vont remettre en question les systèmes actuels.
D'accord, mais donc ça veut dire qu'il y a quand même une menace, un risque qu'on pressent et on veut se prémunir justement avec ce nouveau système de réseau.
Et comme je le disais, c'est assez amusant de voir que le quantique est à la fois une menace, mais apporte également, à travers les mécanismes de transmission, une solution potentielle à ces nouvelles menaces.
Et donc ça veut dire quelles organisations ou quel type de profil pourraient utiliser en avant-première ce réseau ?
Je pense à peu près tout le monde, et notamment tous les gens en premier lieu qui ont besoin d'une sécurité importante, donc les banques, mais pas que. Une chose aussi banale que tout ce Covid. Dans tout ce Covid, vous avez un certificat numérique. Ce certificat numérique, il est basé en fait sur des mécanismes de cryptographie. Bien, demain, avec l'ordinateur quantique, il serait possible de fabriquer de faux certificats à la chaîne. Et bien, la transmission quantique permettra de rétablir, là aussi, des modèles sécurisés qui garantiront l'authenticité des documents qui seront émis et transmis sur l'Internet.
Très clair. Alors, on voit en vous écoutant qu'il y a une dimension politique dans un tel projet. Est-ce qu'en France, on est équipé justement pour répondre à une approche quantique ou alors il faut faire des partenariats avec d'autres acteurs ?
Alors, il y a évidemment une dimension politique puisque tout ce qui est confidentialité est très lié à la notion de souveraineté des États. Mais je tiens à souligner au passage que pas que. Hein, c'est quelque chose qui impacterait notre vie quotidienne vraiment de façon extrêmement importante. Alors, en France, si on revient au positionnement de la France dans les technologies quantiques, on est plutôt très bien positionné sur tout ce qui est ordinateur quantique. On a un écosystème qui est très riche, on a un certain nombre de start-up qui sont extrêmement innovantes et qui mettent en œuvre des technologies qui n'ont rien à envier à celles que mettent en œuvre les GAFA, et notamment Google. Vous savez, Google investit énormément dans l'ordinateur quantique, mais encore une fois, en France, on a des scientifiques, on a des sociétés qui rivalisent très largement avec ce que font les Américains. En revanche, en matière de transmission quantique, on est plutôt en retard par rapport au reste du monde, avec en particulier les Chinois. Et oui, ce sont les Chinois qui sont vraiment les leaders en matière de transmission quantique, qui ont développé des techniques extrêmement sophistiquées. Ils ont même lancé un satellite qui s'appelle Mozi, qui est un satellite dédié à la transmission quantique. Et ils ont mis en place en Chine un réseau de transmission quantique qui est déjà opérationnel. Alors en Europe, c'est moins spectaculaire, mais il existe déjà des réseaux opérationnels. Il en existe en Italie, il en existe en Autriche. L'Angleterre et British Telecom ont annoncé, pas plus tard qu'il y a 3 jours, qu'ils allaient également mettre en place un réseau de transmission quantique en Angleterre. En France, jusqu'à un passé récent, il n'y avait pas d'initiative en la matière. Et donc, chez Orange, encore une fois, avec un certain nombre d'autres partenaires, puisque nous avons fait un consortium avec d'autres grands acteurs de l'industrie, avec des start-up et avec des laboratoires, parce que nous avons des laboratoires très très importants.
La recherche et la science, très important.
Voilà, ouais. Notamment en France et du côté de Nice. Nous avons créé un consortium qui va déployer également en France un réseau de transmission quantique.
Ce qui veut dire qu'on est un petit peu à l'aube d'une redéfinition des frontières géographiques par des frontières numériques ?
Alors, on est quand même dans le temps long, hein. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Les problématiques de mise en œuvre des mécanismes liés à la mécanique quantique sont quand même très très complexes. On a énormément de problèmes opérationnels à résoudre. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de sortir de ce qu'on fait en laboratoire, et qu'on fait très bien en laboratoire, pour arriver à transformer ces expérimentations de laboratoire en un réseau opérationnel qui soit utilisable par le plus grand nombre. C'est un grand pas et ça va prendre plusieurs années.
Merci beaucoup Jean-Luc Villemain, on pourrait rester des heures à vous écouter et merci de nous avoir permis de mieux comprendre ce qu'il est en train de se jouer pour sécuriser nos communications au sein de l'Union Européenne. Dans un instant, vous allez découvrir comment un nouvel ordre mondial pourrait être mis en place pour permettre à l'Europe d'asseoir encore davantage sa souveraineté numérique. Restez avec nous, on vous en dit plus dans quelques instants dans le Numérique pour tous sur Sud Radio.
Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme notre quotidien et aujourd'hui un numérique spécial Nouvel Internet. Et pour mieux comprendre pourquoi plus que jamais Internet devient un outil géopolitique, j'ai le plaisir d'accueillir Tariq Rim. Tariq, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui. Vous êtes le fondateur des sociétés NetVibes et Jolie Cloud. Vous avez été vice-président du Conseil National du Numérique et aujourd'hui vous militez pour un Internet plus apaisé, on va dire, avec votre société Polite. On le disait en introduction, hein, le numérique c'est politique. Pourquoi ça devient vraiment un enjeu politique plus que jamais ?
Ben, l'Internet a toujours été un outil politique et géopolitique dès le départ. Comme on le sait, tout a commencé aux États-Unis dans les années 60 et puis ensuite dans les années 90 quand on a nous découvert l'Internet commercial. En fait, on a aussi découvert que tout était contrôlé depuis les États-Unis. Quand on tape une adresse web, le numéro est résolu aux États-Unis. C'est les États-Unis qui ont le contrôle d'un certain nombre d'acteurs et qui ont aussi, désormais, le contrôle des entreprises qui fournissent les téléphones, les services de stockage, le cloud. Alors, ce qui est nouveau, en fait, depuis quelques années, c'est que certains pays, notamment la Chine, ont décidé de s'isoler et de dire « nous allons construire un Internet qui est le nôtre ». Alors, chaque Internet a plus ou moins une consonance différente. Alors, en Chine, c'est quand même très autour de ce qu'on appelle la surveillance, le crédit social, c'est-à-dire qu'on surveille les gens. Aux États-Unis, c'est surtout sur le fait que tout est business et on peut accéder aux données. Et donc, l'enjeu pour l'Europe, c'est comment construire un Internet humaniste, fidèle à nos valeurs.
Et ça, c'est votre combat avec Polite.
Absolument, c'est le combat depuis une vingtaine d'années déjà. C'est comment respecter la vie privée, ce qui est essentiel, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dès lors qu'on utilise un appareil, un service, immédiatement, un certain nombre d'informations sont prélevées pour nous connaître, pour ensuite essayer de nous vendre des produits ou de nous faire revenir. Et d'une certaine manière, moi, je fais partie des gens qui militent depuis des années pour qu'on sanctuarise la vie privée, l'intimité des gens, et qu'on ne mélange pas ce qui est de l'intime, c'est-à-dire nos photos, nos informations personnelles, nos messages, et ce qui est du commerce, donc les services sur lesquels on va, de e-commerce pour acheter des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu mélangé les deux, parce que c'est plus facile, parce que quand on sait ce que vous êtes à titre personnel, on peut mieux vous cibler pour vous vendre certains types de produits.
Effectivement. Alors, on a évoqué dans la première partie de cette émission avec Jean-Luc Villemain l'ambition d'un réseau de données européen avec l'EuroQCI. Vous ne pensez pas que cette ambition devrait s'accompagner de la création d'un champion du numérique européen? Parce qu'on a les États-Unis avec les GAFAM, on a Alibaba et Tencent en Chine. Qui a-t-on en France? En Europe, je veux dire.
C'est le paradoxe de l'Europe parce que toutes les technologies dont on parle, donc Google, est intégralement produits à partir de technologies qui ont été inventées en Europe. Le web a été inventé en Europe. Linux, donc le système d'exploitation que tout le monde utilise, y compris les Chinois et les Américains, a été inventé en Europe. Le chat avec l'IRC, toute une grande partie, la DSL, enfin il y a un nombre incommensurable de technologies, le MP3, la vidéo en ligne, toutes les technologies que l'on utilise ont été inventées en Europe. Et c'est vrai que l'un des sujets, c'est qu'on n'a pas su formaliser cela dans des entreprises de taille mondiale. On était leader dans l'informatique grand public et dans la téléphonie mobile dans les années 90, entre Nokia, Alcatel, Thomson. Et du jour au lendemain, on a été totalement balayé par ces nouveaux acteurs. Et à mon avis, c'est parce qu'on n'a pas su capter l'innovation des petites entreprises pour les faire grandir. On l'oublie toujours, mais Google, c'est deux personnes dans un garage, Apple, c'est deux personnes dans un garage, Amazon également, et Microsoft aussi. Donc ça a démarré par des petites entreprises qui sont devenues ensuite des géants qu'on a su accompagner, et malheureusement, on ne sait pas vraiment le faire ici.
Et aujourd'hui, selon vous, on a baissé les bras, on n'a plus les moyens de nos ambitions, et dans quelle direction va-t-on ?
Alors, c'est tout le débat, c'est qu'à la fois, on est excellent pour la création de start-up, mais pour les outils, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'infrastructure numérique, on a décidé d'une certaine manière de se dire finalement on va utiliser Google, on va utiliser Amazon, on va utiliser Microsoft, alors qu'on a les moyens, on a une centaine d'entreprises en Europe qui, si elles étaient entièrement organisées, si l'Europe en fait les aidait, auraient la possibilité de construire une alternative. C'est à la différence des grands projets qu'on a eus comme Airbus, où on avait quelques grandes entreprises, aujourd'hui l'Airbus du numérique, c'est 100-150 petites PME. Et donc, l'un des enjeux, c'est d'apprendre à les faire travailler ensemble pour construire des alternatives.
Vous parliez de souveraineté, justement, numérique. Est-ce qu'il y a une urgence par rapport aux tensions internationales que l'on connaît à vraiment créer cette souveraineté? Ou alors, on peut continuer à vivre comme ça et l'avenir est un peu écrit?
La souveraineté a toujours été théorique jusqu'à ce que, par exemple, en Afghanistan, Google a déconnecté, quand les talibans sont arrivés, le gouvernement afghan en 24 heures. Quand on a eu la crise et la guerre en Ukraine, la plupart des services ont été déconnectés, la Russie a été déconnectée en moins de 15 jours. Donc se pose la question pour l'Europe, que si on l'a vu d'ailleurs avec la crise des masques, avec la crise des médicaments et des vaccins qu'on n'a pas su faire, le numérique c'est la même chose, c'est-à-dire que tout va bien quand tout va bien, et quand tout va mal, eh bien, qu'est-ce qu'on est capable de faire nous-mêmes? Et c'est ça la vraie question. La question de la souveraineté, c'est aussi de se donner les moyens de construire et de définir sa propre voie. Je suis persuadé que l'Internet européen ne doit pas être une copie de l'Internet américain. On n'est pas les mêmes. En Europe, on a une vision différente, on a un rapport différent au travail et à la productivité. On est beaucoup plus relax, la culture est importante. Donc il faut que les outils et les produits que l'on fait en Europe traduisent cette différence culturelle.
Mais là, aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'on est sur un Internet à double vitesse qui est en train de se dessiner, avec un axe Russie-Chine, avec une certaine approche, on va dire, de ce qui se passe dans les réseaux, et une autre approche plus occidentaliste, on va dire, avec l'Europe et les États-Unis?
Alors ça, c'est une inquiétude. C'est ce que les Américains appellent depuis quelques années, ce qu'on appelle le splinternet, c'est-à-dire l'Internet qui se sépare. Alors jusqu'à maintenant, on parlait de ça pour parler de la Chine, de la Corée du Nord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, et c'est inquiétant, c'est que d'un côté, on déconnecte les services occidentaux de la Russie, mais de l'autre côté, la Chine arrive en disant « Ah, on va vous aider », Huawei arrive en disant on va vous aider pour votre réseau 5G, Alipay, c'est l'équivalent, on enlève Apple Pay, mais Alipay et WeChat Pay, qui sont les services équivalents chinois, disent « Nous, on va vous aider ». Donc c'est vrai qu'il y a un rapprochement qui est en train de se construire, et ce qui serait à mon avis inquiétant, c'est d'avoir deux internets séparés, avec la Russie, mais pourquoi pas d'autres pays qui seraient, on va dire, plutôt autoritaires, qui s'allieraient, et d'un côté l'Internet occidental. Et en fait, le mythe de l'Internet, qui est un réseau universel, pourrait à ce moment-là être sérieusement entamé.
Alors, venons-en aux réseaux sociaux. Ils ont été un fabuleux outil, quelque part, de libération de la parole, d'accès à la démocratie pour certains pays, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on voit un peu le pire sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis? Où en est-on aujourd'hui de cette communication et de ce que incitent les réseaux sociaux?
Ça, c'est un débat sur lequel je suis d'ailleurs, auquel j'avais poussé le Conseil national du numérique à s'intéresser. C'est le fait que les réseaux et les plateformes s'intègrent dans notre intimité. Donc en fait, au lieu d'être un service qui est un service neutre, c'est un service qui va apprendre ce que vous faites, qui sont vos amis, comment vous fonctionnez, qui va ensuite essayer de déstabiliser cet environnement pour vous vendre des choses. Parce que quand vous êtes déprimé, quand vous êtes euphorique, en fait, les outils que l'on a, on le voit hein, quand on va sur un service comme Instagram, on pense y rester une minute et puis on a passé 10 minutes comme ça à scroller.
Malheureusement, oui.
Parce que le service a été pensé pour ça, capter notre attention, collecter nos données, nos comportements. Et ça, en fait, ça a eu un impact, puisque effectivement, plus les gens sont, on va dire, collés à leur téléphone, moins ils s'intéressent aux choses de manière plus large. On est dans des bulles d'informations, on ne parle plus qu'à quelques personnes, on a l'impression que le monde est différent. Et c'est vrai que ça a créé des tensions politiques. On le voit aux États-Unis, il y a eu une polarisation extrême de la politique, où avant, les gens avaient des terrains communs d'entente, et maintenant, sur certains sujets, c'est plus possible, à table, pendant les fêtes de Thanksgiving, de se parler, parce que les gens ont des visions totalement opposées à cause des réseaux sociaux.
La culture du clash. Alors venons-en justement à un réseau en particulier, un Twitter qui a récemment été racheté une fortune par Elon Musk, 44 milliards. Selon vous, avec votre regard, on va vers le meilleur ou le pire avec ce rachat ? Dans quelle direction justement politique va-t-on ?
C'est compliqué parce que Elon Musk dit tout et son contraire. D'un côté, il dit qu'il va en faire un réseau de la liberté d'expression, mais en même temps, la marge de manœuvre qu'il a vis-à-vis de la loi, on a une loi qui vient d'être votée en Europe, qui est le DSA, qui va obliger les réseaux sociaux à une certaine forme de police et d'organisation. Donc, sa marge de manœuvre est réduite. Mais en même temps, Twitter, c'est le réseau dont tous les chefs d'État, tous les pays ont besoin. Et donc, il a un pouvoir nouveau suite à cette acquisition vis-à-vis de pays comme la Chine, en Afrique, au Brésil, qui sont aussi, il ne faut pas l'oublier, les gens qui lui fournissent les matières premières dont il a besoin pour Tesla, pour SpaceX. Donc, d'une certaine manière, ça lui donne un pouvoir politique et géopolitique, une forme de soft power, comme on dit, importante. Et on va voir, de toute façon, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Il vient juste d'acheter le réseau.
Tout à fait. Et ça ne peut pas encore finaliser, d'ailleurs.
Absolument.
Il y a même un autre réseau. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler réseau, mais monde, le métaverse. Est-ce que, et on peut le comparer quelque part à un réseau, hein, puisqu'on on a des échanges. Est-ce qu'on est à l'aube, là, quelque part, d'une nouvelle façon de s'exprimer ? On ne serait pas dans cette culture du clash qu'on a sur les réseaux actuels, mais qui revisite les codes avec des nouveaux codes, peut-être démocratiques. Est-ce que c'est le regard que vous portez sur le métaverse ?
En fait, quand vous regardez la bourse américaine, Facebook s'est écroulé, Amazon a des problèmes. Pour la première fois depuis 20 ans, Google et YouTube perdent des abonnés. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. Le cycle du mobile, le cycle de la publicité, du gratuit avec de la publicité à outrance. Et ce que cherchent les acteurs, notamment Facebook, mais également Microsoft, Google et Apple, avec le métaverse, c'est de faire rentrer l'Internet dans un nouveau cycle qui serait un cycle beaucoup moins agressif en termes de publicité, où le téléphone mobile ne sera plus le principal outil. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, c'est Apple et Google qui dominent le téléphone mobile. À chaque fois que vous utilisez leur téléphone, vous devez leur payer une taxe. C'est quasiment 30% dans certains cas.
Effectivement.
Et donc, Facebook se pose la question, comment peut-on avoir notre propre outil, notre propre univers dans lequel on n'a rien à devoir à l'un ou l'autre. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté Oculus, la fameuse société de réalité virtuelle, et qu'ils se lancent, là ils ont quand même dépensé presque 20 milliards, dans le métaverse en espérant que ce sera la prochaine évolution de l'Internet.
Cette nouvelle ère dont vous parlez, justement, la prochaine évolution de l'Internet, vous aimez bien parler de slow web, web au ralenti, je ne sais pas comment vous voulez le traduire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée ?
En fait, j'ai toujours l'impression que la technologie, c'est comme la nourriture. On est littéralement ce qu'on mange. Si on mange des choses saines, on est en bonne santé. Si on mange des produits qu'on ne va pas nommer, c'est pas la même chose. Et la technologie, c'est la même chose. En fait, les réseaux sociaux, c'est devenu un peu comme le sucre. On consomme des choses. Elles ne sont pas toujours très ragoûtantes. Et puis, à la fin, on se pose la question, pourquoi est-on déprimé ? Pourquoi avons-nous cette vision polarisée du monde ? Et donc, ce que je prône avec un certain nombre d'acteurs, c'est de revenir à l'Internet beaucoup plus humaniste, un peu plus ralenti, où il y a moins d'interactions, on ne passe pas son temps devant son téléphone. Donc, des applications qui savent se faire utiles quand on en a besoin et se faire oublier quand on n'en a pas besoin.
Pour conclure, si vous étiez ministre du numérique, Tariq, vous auriez 3 mesures phares à nous partager ?
3 mesures phares, non, mais je pense qu'un des vrais sujets aujourd'hui, c'est la commande publique. Je trouve que ce qui fait le succès des GAFAM, donc des Google, Amazon, Facebook, c'est que l'État américain leur donne des contrats et c'est avec ça qu'ils se développent. Il faut qu'il y ait plus d'argent dans les startups, notamment les startups de technologie, parce que c'est le seul moyen de les faire grandir. Aujourd'hui, on leur donne des subventions, Mais ce n'est pas suffisant. Il faut leur donner des contrats et les permettre d'aller à la prochaine étape. Il faut, encore une fois, je le rappelle, Google a commencé avec 2 personnes dans un garage.
Merci beaucoup, Tariq. Et merci aussi, Jean-Luc Villemain, pour cette vision sur un outil qui nous est quotidien, mais dont il est bon de savoir un petit peu comment le décoder. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.
Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.